Allez, Bac FM, il est 10h30, on est parti pour votre rendez-vous ciné du mercredi. Action, c'est parti!
Silence! Moteur!
Allons-y!
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y, Jean-Pierre!
Moteur! Et action! Monster!
Et je dis on, car je suis avec Laetitia et Marie, comme tous les jours, comme tous les mercredis même, parce qu'elles sont avec moi à la radio normalement, mais le mercredi elles sont avec moi au micro pour parler action, pour parler cinéma. Marie va nous sortir un film du grenier tout à l'heure et Laetitia va nous présenter un film d'horreur, un film même biopic si on peut dire.
Et oui, salut Théo, on reparlera de ça tout à l'heure, mais oui, c'est rare que les deux genres se mélangent.
Et puis Marie, toi tu vas nous sortir un thriller.
Oui, tout à fait.
On peut appeler ça un thriller, mais c'est un peu un film assez, c'est assez bizarre quand même.
Ah non, c'est un thriller, on peut l'appeler un thriller, c'est un thriller.
Puis il y a eu plusieurs films aussi, c'est un peu...
Il y a eu un remake américain, parce que le film dont je parle aujourd'hui est suédois, en effet, oui.
Et puis on va parler aussi des sorties ciné de cette semaine qu'on verra ensemble tout à l'heure. Mais avant, on va faire le point sur le box-office qui a forcément évolué, car la semaine dernière, Action n'avait pas lieu pour des problèmes de planning, si je puis dire. Un focus sur les chiffres du premier week-end, car les entrées de la semaine, elles sont pas communiquées en raison du lundi 8 mai. Et les résultats du premier week-end, ils donnent quand même un indice de réussite pour les films. Et c'est le cas pour les Gardiens de la Galaxie 3 qui prennent la tête en cumulant 1 017 381 spectateurs. Sur donc le premier week-end, je le répète, ils ont forcément évolué depuis, mais les chiffres ne sont pas communiqués. Sur 2023, c'est le troisième cumul sur le premier week-end derrière Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, et Super Mario Bros, le film. Et justement, Super Mario Bros qui prend la deuxième place avec 422 000 spectateurs en plus. Ça lui amène un cumul de 6 321 000 spectateurs au terme de son cinquième week-end. Et c'est un énorme carton pour le film qui devrait atteindre les 8 millions d'entrée dans les jours à venir, dans les semaines peut-être à venir, mais normalement ce serait les jours à venir.
C'est impressionnant quand même.
Oui, c'est impressionnant, je suis d'accord. Et d'ailleurs, il a battu un record au niveau de l'argent rapporté, au niveau mondial.
Pour un film d'animation ou juste pour
Ouais, pour un film d'animation. Les trois mousquetaires d'Artagnan et Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, suivent juste derrière. C'est un film qui donne des frissons, qui est cinquième. Evil Dead Rise effraie 80 000 spectateurs et se classe cinquième pour un cumul à 484 000. Laetitia, qu'est-ce qu'on en pense ?
Eh bien, j'en pense que c'était quand même presque attendu, ce gros succès. Parce que voilà, on est sur une saga culte. Et comme je disais l'autre fois, voilà, il y a un public de fidèles. Et puis, les plus âgés entraînent les plus jeunes. Le film d'horreur, finalement, il a jamais été à la mode, mais il a toujours eu une catégorie de fans.
C'est ça, il a son public en fait, et ça continue de marcher. Et à Nevers, il marche très très bien d'ailleurs. Il avait très bien marché pour l'avant-première. Il n'y a qu'une séance par jour, c'est la séance de 21h, mais il cartonne à chaque fois.
Et là, il va être diffusé à la Charité-sur-Loire.
Ah oui, c'est vrai, oui, mais de toute façon, on va en parler avec Céline Quanon tout à l'heure, qui sera mon invité à 13h. Côté comédie française, La vie pour de vrai et notre tout petit mariage continuent d'avancer timidement et ne dépassent pas le million. Alors l'échec, c'est pour La Marginale, c'est avec Corinne Maziero, vous la connaissez Corinne Maziero ?
Bah oui, c'est le capitaine Marlowe.
Ouais, c'est ça, c'est le capitaine Marlowe sur France 2, bien joué Letty. Eh bien seulement 20 000 entrées pour ce road movie entre une SDF et un jeune balayeur atteint de handicap. Et puis un film qui démarre un peu mieux, c'est pour L'Honneur, avec un peu plus de 50 000 entrées. Olivier Marchal au casting de ce film où le rugby justement est à l'honneur, il nous pitch le film.
Ça raconte l'histoire de deux villages qui s'opposent... de façon rugbystique, on va dire. Voilà, c'est le village de Troquepont et le village de Tourtour. Il y a le village des ruraux et le village des nantis. Et à l'occasion du derby qui va célébrer le centenaire de l'opposition de ces deux villages par un match de rugby, arrive un quart de migrants qui va susciter évidemment beaucoup de rejets de la part d'une partie de la population. Un couple dont je suis le mari, donc Marco Bianconi et sa femme Annabella, qui est jouée par Olivia Bonamy, vont essayer de rassembler un peu les gens du village pour accueillir ces gens. Et mon personnage va remarquer parmi les migrants 3-4 personnalités assez douées pour taper dans le ballon. Comme son équipe perd et qu'il a quand même pas mal de bras cassés, il va essayer de remonter une équipe pour rivaliser avec l'équipe adverse.
Un film avec un message au-delà du rugby selon un autre acteur du film, Mathieu Madénian.
C'est une très belle fable, remplie de rire, d'émotion, sur un sujet qui est assez sérieux, moderne et intemporel.
Pour l'honneur, c'est encore à l'affiche de votre ciné Mazarin. Et puis on fait le tour, maintenant, des nouveaux arrivés à l'affiche, justement, de votre ciné Mazarin, mais aussi d'ailleurs, avec les sorties de la semaine.
Pour le grand écran! Pas pour la petite lucarne! Et voilà, on a les droits!
Et quatre nouveaux films au ciné Mazarin depuis aujourd'hui, et un film qui est l'événement dans l'événement cinématographique à venir, c'est le nouveau film de Mai Wen qui ouvre le festival de Cannes. Il revient sur l'histoire de Jeanne Vaubernier qui veut s'élever socialement et qui met à profit ses charmes pour sortir de sa condition. Son amant, c'est le comte du Barry qui s'enrichit grâce aux galanteries lucratives de Jeanne et qui veut la présenter au roi. Ce sera le coup de foudre entre eux, le roi ne peut plus se passer d'elle et décide d'en faire sa favorite officiel, scandale, personne ne veut d'une fille des rues à la cour, bande-annonce.
Et voici Jeanne Vaubernier, dite l'ange.
Un ange tombé du ciel.
Je vous attendais, moi.
Je t'aime.
C'est pas ça, là.
Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de changer de vie?
Pour aller où?
Jean du Barry veut que je vous présente au roi.
La comtesse Jeanne du Barry.
Surtout, ne regardez pas le roi dans les yeux. Ce serait perçu par la cour comme une invitation.
Une invitation à quoi?
À la bagatelle.
Qui se prend pour...
Nous sommes devenus la risée de Versailles à cause de vos égarements.
Le Premier ministre ne va pas tolérer que vous laissiez une fille des rues côtoyer votre entourage.
Cette jeune femme est mon entourage. Je vous aime.
Nous comptons tous sur vous pour que cette misérable femme soit chassée de la cour.
Le roi a d'autres maîtresses.
Vous êtes en train de découvrir le côté sombre du roi.
Jeanne du Barry, le nouveau film de et avec Mai Wen et Johnny Depp dans le rôle du roi. Et Mai Wen, je m'attendais pas à la voir dans un film historique.
Oui, c'est vrai que par rapport à ce qu'elle a déjà fait, c'est pas forcément. Elle s'aventure sur un nouveau terrain.
Ouais, franchement, je le. Mais j'adore Mai Wen. J'adore cette réalisatrice. J'adore l'actrice, mais j'adore la réalisatrice aussi.
C'est elle qui avait fait Police.
Ouais, oh là, avec Joe Star. Quel film,
Un film qui retournait bien la tête.
Ouais, exactement. Ouais. Et puis je trouve qu'elle a aussi un peu cette audace de mettre des acteurs là où on les attend peut-être pas forcément. Bon, après, Johnny Depp en roi, c'est pas ce qu'il y a de plus choquant. Mais on s'attend pas à voir Johnny Depp quand même dans un film
dans une production
français comme
française,
celui-là. Ouais, c'est ça.
Oui. Bon, après, je sais que le film est un peu décrié déjà.
Ah oui?
De pas mal de petits. Ah voilà, déjà il y a Johnny Depp et du coup ça plaît pas à certaines personnes.
D'accord.
Mais ouais, le film est déjà un peu décrié, mais très sincèrement, moi je suis très curieuse de le voir en fait.
Et les films historiques qui reviennent aussi un petit peu encore en force au
disait.
Cinéma.
C'est ce qu'on disait.
Après Les Trois Mousquetaires, on parlera de ce film la semaine prochaine, il sera peut-être dans le box-office. Et puis un autre film à l'affiche de votre ciné Mazarin est toujours historique d'ailleurs, on pourrait dire, parce que c'est un biopic et c'est Laetitia qui nous le présente.
Ouais, historique, on remonte un petit peu moins loin dans le temps.
Oui, c'est vrai.
Là,
c'est vrai,
on revient dans des années plus proches de chez nous. Oui, un film historique, mais aussi un film d'horreur, un biopic. Alors, biopic, pourquoi? Parce que le héros du film, alors le film, je ne l'ai pas dit, c'est l'exorciste du Vatican. Et le héros du film, c'est le père Gabriel Amorth, qui est incarné ici par Russell Crowe. Quand même.
Oh.
Et Gabriele Amorth, il a réellement existé. Il est décédé il n'y a pas très longtemps, en 2016. Et c'est de ses archives personnelles que s'inspire l'histoire de l'exorciste du Vatican, qui nous raconte l'enquête que va mener le père Amorth, qui est l'exorciste en chef du Vatican, concernant le cas d'Henri. C'est un jeune garçon qui serait possédé. Et bah, les investigations vont mener le père Amorth à dévoiler une conspiration séculaire que le Vatican a bien essayé de cacher à tout le monde. C'est un film, alors qui peut faire penser un petit peu au film Le Rite, un film des années 2010 avec Anthony Hopkins. Et puis ça fait bien sûr penser à quel film, Marie ? À L'Exorciste.
Oui, forcément, L'Exorciste du Vatican, je suis d'accord.
Parce que c'est le film qui a carrément défini les bases du genre. Alors même si là, on a cette partie un peu biopique, historique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le réalisateur de L'Exorciste, donc William Friedkin, il avait pu rencontrer le père Amort quelques temps avant son décès. Et il avait même obtenu l'autorisation du Saint-Siège pour filmer un authentique exorcisme mené donc par ce père Amort. Et tout ça, on peut le découvrir dans un documentaire qui s'appelle The Devil and the Father Amort. C'est sorti en 2018 et ça a été longtemps disponible sur Netflix.
Et c'était aussi pour s'imprégner aussi un petit peu de ce que voilà. C'était L'Exorcisme en fait. Hein, finalement.
C'est ça, exactement ça. Et le père, juste pour la dernière petite anecdote, ce père Gabriele Amort, son film préféré, c'était L'Exorciste.
La boucle est bouclée.
Ce qui est assez étonnant dans ce film-là d'horreur slash épouvante, parce que je pense qu'on peut l'appeler épouvante aussi.
Ah oui.
C'est que en fait. Dans les films qu'on voit d'habitude d'horreur, c'est des faits qui ne sont pas forcément réels.
Alors, souvent, on te dit inspiré de faits réels, mais alors l'inspiration réelle, faut aller la chercher. Exactement. Très très loin.
Ça veut rien dire.
Alors que là.
Là, pour le coup, ouais. Ça parle peut-être à certaines personnes qui croient vraiment à ce genre de rite, en fait.
Mais bien sûr. Mais en plus, c'est pas d'y croire, c'est que l'exorcisme existe réellement, quoi.
Dire qu'il y a vraiment des personnes dont le métier. C'est surtout, c'est souvent lié à la religion, à l'église, mais c'est d'exorciser des gens. Après, voilà, tu crois ou pas à ça, mais.
C'est quelque chose qui est
ancré dans la réalité.
Vraiment, tu as raison, de fait totalement réel. Alors après, évidemment, ça part un peu dans le film d'horreur.
Oui, parce qu'il faut forcément une scénographie, etc. Mais ton avis sur le film, Letty ?
Eh bien, écoute, moi, j'ai bien envie de le voir. Alors, j'ai pas entendu que des bons retours, mais bon.
Ouais, c'est ce que tu me disais. Hein,
les gens sont toujours. Décrié. Ouais, les gens, ils sont toujours un petit peu grincheux. Voilà, il y a toujours ceux qui ont envie de faire leur rageur, là. Mais moi, j'ai bien envie de voir ce que ça donne, justement, pour ce côté un peu biopic, et puis parce que j'avais vu le documentaire avec ce prêtre assez iconoclaste, et un prêtre qui était assez détonnant quand même.
Et il était sur Netflix, tu dis
Il a longtemps été dispo sur Netflix, maintenant je pense qu'il n'y est plus, mais bon, on peut trouver ça sur internet.
Ouais, on peut quand même le trouver. Bah écoutez, en tout cas, L'Exorciste du Vatican, c'est disponible au ciné Mazarin, et puis peut-être qu'après Evil Dead Rise, on peut continuer sur la série film d'horreur slash épouvante.
Bah il y en a d'autres qui arrivent en plus.
Oui, c'est vrai, il y en a d'autres qui arrivent. Laetitia a déjà hâte, elle s'est fait une petite liste au bureau, les post-it avec tous les films d'horreur qui arrivent.
Elle coche au fur et à mesure où elle va au cinéma.
C'est ça. Et puis pour ceux qui préfèrent voyager plutôt que d'avoir des frissons, eh bien au ciné Mazarin tous les jours, c'est direction Hawaï avec Bérénice Bejo, Elodie Boucher, Émilie Kahn, Manu Payet, William Legbill et Nicolas Duvauchel. On est le 13 janvier 2018, il est 8h07 et une alerte missile balistique sème la panique sur l'île d'Hawaï. Persuadés qu'ils vont mourir, des amis venus passer leurs vacances en bande se disent ce qu'ils n'ont jamais avoué. Quand ils réalisent qu'il s'agit d'une fausse alerte, il est trop tard pour revenir en arrière. C'est un film de bande comme on en a déjà vu beaucoup. Voilà, la critique presse est pas forcément très bonne. On verra ce que la critique spectateur donnera. Mais voilà, c'est pas un film qui va marquer le cinéma français. Et puis un dernier film à l'affiche de votre cinéma Mazarin nous reste à voir, et c'est Manuel Housset qui le présente. Ça s'appelle Le Principal, mais juste avant, bande-annonce.
Un peu de silence dans les couloirs, s'il vous plaît, un peu de silence.
Vous êtes le meilleur collaborateur que j'ai jamais eu. Avec vous, j'ai passé mes plus belles années de collège.
Alors comme ça, tu vas devenir président.
Comment ça, président ?
Ouais, enfin, directeur.
Principal.
En vrai, je suis fier de toi.
C'est la première fois que t'as pas eu les félicitations. Les moyennes ont beaucoup baissé au troisième trimestre.
S'il te plaît, n'y mets pas la pression.
Excuse-moi d'être attentif à l'éducation de mon fils.
Et pourquoi les choses peuvent jamais être simples avec toi ?
Il a l'air très équilibré comme gamin. Il vous regarde avec beaucoup d'admiration, vous savez.
Naël, qu'est-ce que tu fais là ?
Quoi ? Je discute juste avec mon oncle.
L'autorité qui revient au quartier.
Pourquoi tu fermes pas juste ta gueule ?
L'homme D. C'est l'histoire d'un homme qui décide de transformer sa vie en un jeu de hasard.
Ça peut m'intéresser, ça. Bonne chance à tous.
En français, j'ai assuré, mais les maths, par contre...
Quoi, les maths ?
Dans l'histoire, j'ai pas tout vu.
Comment ça, t'as pas tout vu ? C'est demain, l'histoire. Je t'avais des fiches un peu synthétiques, ça devrait t'aider. Ah, t'as mention au brevet ?
Bon anniversaire, mon chéri.
Sabri, vous pouvez venir, s'il vous plaît.
Qu'est-ce qui se passe avec Naël ?
Calme-toi, y a rien de grave.
Qu'est-ce que t'as fait ?
Comment vous expliquer tant de similitudes entre le corrigé type et la copie de votre fils ? Vous avez quelque chose à me dire, Sabri ?
Le principal, c'est une nouvelle sortie ciné de cette semaine et c'est présenté par Emmanuel Housset avec un Roche Dizem en véritable principal donc dans ce film.
Oui Théo, il est véritablement le principal. Il porte son costume cravate avec la raideur d'un Bruce Wayne dans sa combinaison de Batman, le regard sévère, le ton ferme. Il incarne Sabri, un principal adjoint de quartier qui mène ses élèves à la baguette, homme de conviction. Il a tout fait dans les règles pour obtenir la promotion qui est censée récompenser une carrière exemplaire. Il est issu d'un milieu modeste, il aimerait que son fils, bon élève, mais pas vraiment passionné par les études, marche sur ses traces en intégrant un bon lycée après le brevet des collèges. Et bien pour lui assurer une mention à l'examen, il va commettre l'irréparable.
Et Roche Dizem, qui incarne très très bien ce rôle dans le film.
Oui, c'est vraiment son atout maître, Roche Dizem, toujours impeccable, qui réussit à nous surprendre une nouvelle fois avec le portrait tout en finesse, tout en petites touches, mais aussi en complexité de ce solitaire qui est en quête de revanche sociale, qui ne peut tolérer aucun obstacle sur le parcours qu'il s'est fixé, qu'il s'est rêvé. Alors, tantôt il est trop exigeant avec ceux qu'il aime, tantôt aussi mis en doute, ébranlé par un passé qu'il voudrait oublier mais qui le hante toujours. Pas franchement sympathique, pas très aimable, quand on comprend qu'il est prêt à sacrifier ce qu'il a de plus cher pour ne surtout pas entacher sa réputation. Mais plein de fêlures quand aussi l'armure va se fissurer. Voilà, le principal, un film à ne pas rater.
Et puis on laisse monter Marie dans son grenier pour nous trouver un film à revoir. Mais juste avant, quelques infos. Le Ciné Mazarin vous propose deux séances jeunesse aujourd'hui à 16h et samedi à 16h avec Super Astico. Et puis la Nuit des Rois du théâtre au cinéma et une séance demain à 19h30. Voilà, on termine cette émission comme tous les mercredis avec un film que Marie nous ressort de son grenier. Et aujourd'hui, c'est un thriller.
Et oui, je viens de descendre de ma petite échelle et je vous ai ramené aujourd'hui un thriller aux accents suédois. Donc un film qui nous embarque dans un huis clos insoutenable et où la violence règne en maîtresse, réalisé par Nils Arden Oplev. Aujourd'hui, on parle de Millennium, c'est juste après la bande-annonce.
Magda, 30112.
Merci d'être venu, Michael. C'est Harriet, Harriet Wenger, la fille de mon frère Gottfried.
Que lui est-il arrivé ?
Elle a purement et simplement disparu. Chaque année depuis, on m'envoie une fleur par la poste.
Qui pourrait vous les envoyer ?
L'assassin de Harriet.
Que pouvez-vous me dire sur Blanquist ?
On a tous des secrets.
Avec tout le respect que je vous dois, vous ne trouverez rien. Pour moi, l'affaire est classée.
Vous aviez retrouvé le journal intime de Harriet dans la maison où vivait son père.
Sarah, 32016.
Oui, son journal intime, mais il ne révèle rien.
La famille Wenger, Michael, ma famille, c'est l'un d'entre eux qui a tué Harriet.
Attendez une minute. Vous soupçonnez qui ? Aucun d'entre eux. Tous.
BJ 32027.
L'énigme restera entière. La seule chose que vous réussirez à faire, c'est entretenir l'obsession de Henrik.
Wasp. Quelqu'un pirate mon ordinateur. Un certain Wasp.
Tu ne connais pas les membres de ma famille. Tu n'as pas idée de quoi ils sont capables.
Qu'est-ce que tu veux ?
J'ai besoin de ton aide.
Reste tranquille ! Qu'est-ce que tu veux ?
Ça ira très vite.
C'est monstrueux.
Tu crois que quelqu'un va t'entendre ?
LI 31208.
Bon, j'avoue, pour l'émission d'aujourd'hui, je triche un petit peu car la bande-annonce que vous venez d'entendre, c'est pas celle du film du jour. En fait, il existe deux versions de Millennium. L'original de Oplev, dont on va parler aujourd'hui, et qui est une production suédoise de 2009. Et Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes, de David Fincher, sorti en 2011, et qui, lui, est un remake américain du premier film. Je m'autorise ces petits écarts car le film américain parlera un petit peu plus aux habitués du cinéma occidental, mais le film original vaut tout autant le détour, je peux vous l'assurer.
Mais d'ailleurs, version américaine, il y a 3 films du coup, c'est ça en
fait ? Non, pas exactement, non, je vais revenir, mais t'inquiète pas, la version américaine, il y a 2 films.
D'accord.
Bon. Mais voilà, donc l'intrigue de ce premier film s'ouvre sur Mikael Blomkvist. Alors tous les prénoms et toutes les noms de famille sont suédois, donc je vais peut-être galérer un peu. Mais voilà, Mikael.
Cette émission est sponsorisée par Ikea.
Voilà, exactement. Qui est un journaliste d'investigation économique et qui travaille pour la revue Millennium. Cela dit, ce n'est pas un bon jour pour Mikael car il vient de perdre un procès pour diffamation contre un grand chef d'entreprise véreux. Écœuré par cette injustice, il décide de faire une pause et de s'éloigner des sphères du journalisme pendant un temps, mais c'est sans compter sur un appel déroutant qui va le sortir de sa retraite. En effet, un certain Henrik Van Eck, ancien président d'une entreprise industrielle, va le contacter pour réouvrir une enquête vieille de 40 ans. Alors, adapté de la série de best-sellers de Stieg Larsson, le film Doplev se concentre sur le premier tome des aventures de Mikael Blomkvist et de sa première enquête criminelle. Deux suites sortiront la même année, se concentrant respectivement sur le tome 2 et le tome 3 de la série de livres, Millennium 2, la fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette, et Millennium 3, la reine dans le palais des courants d'air. Donc la saga étant très populaire aussi bien en Scandinavie qu'à l'international, il n'est pas étonnant que les aventures de Mikael Blomkvist reviennent sur grand écran. Mais donc oui, il y a 3 films suédois et uniquement 2 films américains. Mais voilà, les films américains, on pourra en parler un petit peu plus loin dans la chronique.
C'est lesquels les mieux pour toi ?
J'aime beaucoup les suédois.
Okay.
Mais après, moi je suis fan des livres. Voilà, donc. Mais donc revenons-en à notre film du jour. Sombre et très porté sur les travers de l'humanité, l'intrigue n'épargne personne, pas même ses héros qui se retrouvent propulsés dans une enquête plus qu'improbable. Et en effet, Mikael est chargé de découvrir la vérité sur la disparition d'une jeune adolescente qui s'est évaporée sans laisser aucune trace 4 décennies plus tôt et dont le fantôme semble hanter l'esprit de Van Eck, le commanditaire de l'enquête. Mais si vous êtes attentif, vous aurez remarqué que plutôt j'ai dit nos héros et pas notre héros. En effet, Mikael ne sera pas seul dans toute cette histoire puisque pour l'assister, il aura près de lui Lisbeth Salander, un génie de l'informatique au caractère bien trempé et au passé trouble. Et pour les fans du livre ou même des films, hein, Lisbeth, vous le savez si vous connaissez, est un véritable symbole, c'est le symbole de Millennium, voire même c'est son âme. Carrément. C'est elle qui apparaît sur les couvertures des romans, sur les affiches des films, c'est d'elle dont on parle dans les sous-titres. Par exemple, tout à l'heure, je disais la fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette, c'est d'elle dont on parle. Bref, c'est elle qui fait tout le sel de cette saga haletante. Elle est forte, elle est rebelle, et sa force est d'autant plus importante et surprenante qu'à la base, Lisbeth est une victime. Je n'en dirai pas plus, pour éviter les spoils, mais ceux qui connaissent l'intrigue, qui connaissent le film, savent de quoi je parle. À sa sortie, le film fait grand bruit en Suède, il est salué par la critique, et il rafle les récompenses et distinctions. On décompte d'ailleurs pas loin de 8 récompenses dans divers festivals pour 13 nominations, ce qui est assez impressionnant pour un film pas si connu que ça en Europe. Et il faut avoir juste conscience, en fait, simplement que pour la Scandinavie, il s'agit d'une adaptation vraiment très importante et attendue. On pourrait un peu comparer ça à Hunger Games en Amérique, en termes d'adaptation littéraire, locale. Voilà, ouais. C'est un peu un gros événement quand même.
Et donc, ils n'avaient pas trop droit à l'erreur en soi.
Oui, voilà, c'est ça. Et donc, d'ailleurs, le film finira par s'exporter, et notamment aux États-Unis, où les producteurs y voient un vrai potentiel pour un remake. Et donc, en 2011, à peine 2 ans après la sortie des 3 premiers films suédois, sort une relecture américaine, Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes.
Voilà, c'est là que...
Okay. C'est ça. D'accord. Alors, Millennium, les hommes qui n'aimaient pas les femmes, c'est la version traduite en français du titre, parce que c'est le titre du premier tome, mais par contre, aux États-Unis, ça s'appelle Millennium, The Girl with a Dragon Tattoo, la fille avec un tatouage de dragon.
D'accord.
Et donc, ce film, réalisé par David Fincher, voit le jour avec Daniel Craig en Mikael Blomkvist. Et le remake recevra un accueil très positif lui aussi. Il rapportera 102 millions de dollars uniquement au box-office américain.
Oui, c'est pas dégueu.
Non, c'est pas dégueu.
C'est pas dégueu.
C'est pas dégueu. Et il aura le droit à une suite qui s'appelle Millennium 2. Et je ne sais plus lequel parce qu'il y a beaucoup de titres différents qu'il choisit.
Vas-y, je te laisse finir ta chronique, Marie. Je vais aller regarder ça.
Vas-y, regarde. Mais donc, voilà, c'est une... Malheureusement, c'est une saga américaine qui n'aura pas de troisième volet, contrairement au film suédois. Et oui.
Le 3, j'ai trouvé le nom.
Le 3 ?
Oui, c'est la reine qui chope la grippe. Parce que c'est la reine dans le palais des courants d'air.
Je l'ai dit tout à l'heure, ça c'est le, celui pour le suédois. C'est
ah,
le
okay.
troisième
bon,
film
bah,
suédois.
Ah bah j'ai que ça moi. Bon, bah, okay.
C'est pas grave. Mais donc, oui, il n'y aura pas de troisième volet pour la saga américaine, contrairement du coup à la saga suédoise. Et il se peut qu'il n'y en ait jamais, surtout qu'en réalité Millennium est une trilogie de livres, est une double trilogie de livres même, puisque les trois premiers tomes, écrits donc par Stieg Larsson,
Ce qui ne me tue pas,
c'est le volume 2.
Yes!
Bravo!
J'ai trouvé!
C'est le volume 2, donc, du remake américain. Mais donc, oui, la trilogie de livres de base de Stieg Larsson est très populaire, mais malheureusement, le monsieur est décédé en 2007, donc il n'a pas pu voir les films, malheureusement. Et un jeune, il a le droit à un jeune héritier, puisque une autre trilogie de Millennium est sortie grâce à l'intervention d'un jeune auteur suédois.
D'accord.
Voilà, aujourd'hui, maintenant, il y a deux trilogies, une écrite par l'auteur original et une écrite par le nouvel.
D'accord.
Par le nouvel auteur.
Ouais, c'est un petit peu une saga qui n'en finit pas, en fait, finalement.
Bah, pour l'instant, en tout cas, elle a l'air finie. Il y a 6 tomes et pour l'instant, ça a l'air de plus en sortir.
Celui, du coup, c'est ce qui l'a tué, quoi.
Oui, voilà.
Malheureusement.
Bref, si vous êtes curieux de découvrir une petite pépite du cinéma scandinave, pardon, surtout, n'hésitez pas. Et la seule difficulté, ce sera peut-être de trouver le film. Sinon, vous pouvez toujours vous rabattre sur la version des États-Unis, hein, qui, elle, est disponible sur Amazon Prime. Et gardez simplement en tête que c'est un thriller et que vous risquez d'être secoué. Mais faites-moi confiance, ça en vaut la peine.
Et suspense garanti. Merci
Sinon,
beaucoup, Marie.
Écrivez un petit message sur le Facebook de Bac FM. Marie vous enverra une copie.
Vous enverrez le lien.
Merci beaucoup Marie, merci pour ce
merci
nouveau film
Théo.
Que tu nous as sorti de ce grenier. Merci à toi Laetitia aussi de nous avoir
merci, Théo.
Présenté cet exorciste du Vatican qui, je le rappelle, est au ciné Mazarin, comme tous les autres films qu'on a évoqués dans les sorties ciné de cette semaine. On se retrouve, nous, à 13h avec nos invités, que ce soit moi et Marie. On va parler de France Service et de leur café rencontre. Et on va parler aussi cinéma avec Emmanuel Dumont, c'est Nico Non, le cinéma itinérant et le Crystal Palace à la Charité sur Loire. À tout à l'heure.
Silence ! Moteur !
Allons-y !
Le cinéma a toujours fabriqué des souvenirs.
Vas-y Jean-Pierre !
Moteur ! Et action !